autrice et qui écrit aussi depuis pas mal d'années des nouvelles et des romans, romans à la Talente, Jacques Martel, un relativement nouveau dans ce milieu, relativement quelques années déjà, mais bon, relativement nouveau, en tout cas, bienvenue à vous aux Imaginales, vous on est beaucoup plus dans la fantaisie, on va le voir. Samantha Bailly, du fantastique contemporain, on pourrait dire quelque part, votre roman Ce qui nous lie. Pareil pour Horizon, là on est dans la fantaisie épique, on peut le dire vraiment, vraie fantaisie, avec de l'aventure, avec des enquêtes, un complot, de la baston, enfin vous comprenez. Et puis j'arrête parce qu'il n'y a plus d'exemplaires sur le festival, donc vous serez obligé de courir les libraires, mais après tout, quelque part, c'est aussi bien les libraires qui nous permettent de découvrir les livres. Et puis Heyerdahl, pour terminer, Heyerdahl qui a publié tout récemment, après une bonne trentaine de, crois, de romans, en tout cas presque une trentaine de romans et des dizaines de nouvelles, il vient de publier un thriller, Rainbow Warriors. Heyerdahl, c'est un des grands auteurs de la science-fiction française. C'est un des meilleurs auteurs de space opéra, planète opéra français. Et puis, à un moment donné, même si ses livres sont encore heureusement disponibles et réédités, Heyerdahl s'est lancé dans le thriller, Transparence, Résurgence, et aujourd'hui, curieuse couverture, on va y revenir, Rainbow Warriors. Voilà, présentation rapide de nos quatre auteurs, avec des univers quand même très différents, qu'on va essayer donc d'explorer. La première chose que je voudrais demander à Heyerdahl, c'est pourquoi vous êtes passé il y a quelques années, vous allez me répondre sans doute pour des raisons uniquement bassement commerciales, de la science-fiction au thriller.
Ah, du coup, j'ai plus le droit de répondre à la vraie question. Ça faisait longtemps, je pense, que ça traînait dans ma tête, et puis j'avais envie de... En fait, la science-fiction, je m'en suis toujours servi comme métaphore du monde et de l'humanité. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi tu ne le ferais pas dans le monde ? Ouais, le nôtre, celui qu'on connaît. Mais je l'ai fait. Alors, il y a une autre réalité dont Stéphanie essaie de me dire, c'est un zéro de plus sur l'échec.
Derrière la virgule, ça
ne
change rien.
Merci à notre lecteur pour cette contribution essentielle au débat. Heyerdahl, au-delà de cette réaction en forme de boutade, sérieusement, qu'est-ce qui vous a amené à avoir fait le tour de la science-fiction ou d'avoir envie de vous lancer dans le thriller ?
Un, je n'ai pas fait le tour de la science-fiction. Deux, je... Dans la SF. J'ai cette chance de ne faire que ça comme métier. Je n'ai pas d'autre côté professionnel. Et ayant cette chance, j'essaye le plus possible de m'amuser quand même quand j'écris. Parce que mes bouquins ne sont pas toujours ni drôles, ni... je traite de choses qui sont parfois un petit peu bousculantes. Je parle du monde, non, et de l'humanité. Et passer au thriller m'a permis une chose que je trouve assez intéressante. Après, vous êtes obligé de relever le défi, là. Travailler dans le vrai monde, dans le vrai monde d'aujourd'hui, ça me permettait de dire les choses brutes de fonderie. Voilà. Dans la science-fiction, je parlais aussi de la même chose, mais avec des métaphores, avec je m'éloignais, le thriller m'autorise le droit de m'exprimer sur mes contemporains de maintenant.
Donc, les univers qu'on va découvrir, ce sont ceux de nos quatre auteurs. Alors, on va commencer par le faire, comme souvent, avec un petit extrait. Rien n'attendit calmement près de l'un des soldats gardant l'extrémité de la queue nue qui donnait sur la basse corniche, son bonnet bien en évidence afin de ne pas être bousculé par la foule. Un rapide mouvement de tête précéda le bref échange entre l'homme et le garçon, qui glissa la marque de bronze dans sa besace au message personnel, puis reprit son chemin vers la petite pension taillée dans la roche où logeait le vieux Tarboutal. L'homme le fascinait. comme de rares autres avant lui, faisait figure de légende dans la cité. Un ancien soldat de la ville, la 8e exilée, mère de la soifée, passée dans le camp des assiégés. Rian était bien trop jeune pour y avoir assisté, mais les anciens camarades de son père lui avaient raconté la course de l'homme vers les grandes portes un matin d'orage, sous les flèches que décochaient les soldats de la ville. Comme Attar poussait nuages et air de toute la force de sa colère, déchirait les brumes de sa foudre, les projectiles furent emportés au loin, avant d'avoir franchi 20 pas, malmenés par les vents, alourdis par les pluies violentes. Déliés, c'était leur titre, il est appris par Boutaille, franchirent alors le mur, descendirent le long de cordes, puis se lancèrent à la poursuite du fuyard, au travers de la déserte, leurs longs couteaux courbes à la main. Plus rapides, ils gagnèrent rapidement du terrain, et l'un d'eux jeta l'homme dans la boue à 50 pas des portes. Une longue lutte s'ensuivit, durant laquelle Targoutaï se releva, défendit chèrement sa vie, blessant ou tuant au moins 5 liés avant d'être submergé par le nombre et cruellement blessé à la cuisse. Alors qu'il gisait au sol, son adversaire assis sur sa poitrine, une lame courbe portée sur sa gorge, la fronde du père de Rian avait sifflé malgré les ordres de l'Urjula. Le lié se figea, puis s'effondra sur le côté, une marque sombre sur le front, de laquelle s'écoula aussitôt un flot de sang. Un ordre fut lancé, les frontes tournoyèrent, provoquèrent la chute de 3 assaillants ainsi que la fuite des autres, qui prirent les corps de leurs camarades avec eux. Targoutaï boita vers la corde jetée par-dessus les créneaux, s'y attacha par la taille, avant d'être remonté, puis désarmé, pour être mené sous bonne garde, les yeux bandés, vers les hauteurs. Inutile de le préciser, on est dans un univers de fantasy. La guerre de l'hydre, Jacques Martel, c'est quoi cette hydre ?
Ah, alors l'hydre, là, n'est pas un monstre. L'hydre est un conquérant qui s'approche d'une cité qu'on voit dans ce roman sous 3 points de vue. Le roman commence avec un jeune garçon, Rian, dont on vient d'entendre parler dans l'extrait, qui vit dans une cité assiégée depuis 7 générations et qui rêve de voir l'extérieur. Il connaît de l'extérieur que ce que lui ont raconté les gens de la cité, les anciens, qui eux-mêmes ne sont jamais sortis de la cité. Donc pour eux, l'extérieur, c'est une légende. Depuis 7 générations, personne n'est rentré. Ensuite, on a le deuxième point de vue, c'est le point de vue des assaillants, qui eux ont une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la cité, mais ils ne l'ont jamais vu non plus. Ils s'imaginent ce qu'il y a. Et ensuite, le troisième point de vue, c'est celui de l'hydre, un conquérant qui vient, pour qui la cité est une légende. Donc eux ont une troisième vision de la cité. Et l'intérêt était de montrer un lieu qui porte des noms différents, suivant les gens qui en parlent, sachant que la seule vision réelle est celle de ceux qui vivent dans les lieux. Et pour répondre à la question de Stéphanie, l'hydre est le nom que les poètes donnent aux conquérants parce qu'il a sa colère qui est palpable, qui l'accompagne et qu'on peut percevoir comme des formes qu'il y a avec lui. D'où le surnom de l'hydre.
On s'interrogeait sur la présence de 4 auteurs aussi différents. Le thème pour nous regrouper, c'était « Pays imaginaire, les voyageurs de l'ailleurs ». Alors ça pouvait paraître entre un thriller quasi contemporain, légèrement décalé, on va dire, pour que ça ait une vague rapport par bribes avec la science-fiction. Ce que raconte Ayarda n'est pas arrivé. C'est donc peut-être possible dans un futur à très court terme. Enfin, c'est notre univers, soyons sérieux.
Oui.
On verra. Pour certains rêves, pour d'autres un cauchemar. Samantha Bailly, là, on va vraiment partir dans la fantaisie. On lira un extrait là, d'une nouvelle, mais ça donnera une nouvelle de votre univers. Et là, on est vraiment dans un ailleurs qui est un ailleurs complètement inventé, Jacques Martel. C'est un monde de fantaisie, c'est un monde, évidemment, qui renvoie un peu à une vision un peu du Moyen-Âge, quelque part, mais c'est quand même un monde que vous avez complètement inventé.
Oui, c'est un monde que j'ai créé, mais la base m'est venue en lisant les chroniques d'Hérodote, donc celui qui est considéré comme le premier des historiens, et il a une vision concrète pour les gens de l'Antiquité du monde. C'est-à-dire, par exemple, que pour lui, les dieux existent, c'est évident, on en a des preuves. Sparte a été fondée par des descendants d'Hercule, c'est évident, on en a des preuves. L'or le plus fin vient du nord du monde et est arraché aux griffons par un peuple qu'on appelle les Arismates. Alors pour Aristote, pour Hérodote, les griffons existent, l'or leur est bien volé. Par contre, ce qu'il met en doute, c'est que les Arismates n'auraient qu'un œil. Et ça, Hérodote, qui est historien de son époque, sait que c'est faux. parce qu'il n'y a que les cyclopes qui n'aient qu'un œil. Et je me suis dit, ça, c'est une vision du monde qui me plaît. Donc j'ai créé un monde un peu basé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses... C'est la vision du monde qui est fantastique et antique. Sachant que là, la caractéristique, c'est que le monde est cerné par des brumes et que, quand l'humanité s'étend, elle repousse les brumes. Si elle n'occupe pas une partie du pays, les brumes reviennent. Alors, il faut savoir que ça, par contre, je dois quand même l'avouer, l'idée n'est pas de moi, c'est une nouvelle de Moorcock qui m'avait marqué, Moorcock, quand j'étais jeune, où on voit un chevalier, Yun Oberg, je crois, qui affronte des brumes comme ça, qui sont le bord du monde. Et c'est une image que j'ai toujours eue en tête.
Un ailleurs complètement alternatif, un univers parallèle ou un univers simplement d'écrivain qui n'a jamais existé, qui est né de votre imaginaire, Jacques Martel. Comment s'appelle votre imaginaire ?
Il n'a pas de nom. Le nom qu'il a dépend de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Nous, on a bien Londres et London, c'est la même ville, mais suivant l'endroit dans lequel on habite, on a deux noms différents.
Un monde qui n'a pas de nom ou qui a plusieurs noms, finalement, c'est original, en fait, les idées. Faubat. On va partir à nouveau ailleurs, alors là, vraiment pas du tout la même temporalité, le même monde et la même façon d'aborder les choses avec la série des singes, Sylvie Denis. Là, visiblement, on n'est pas dans la fantaisie, on va voir tout de suite. Survie. Navette de secours de l'abondant en route vers le nuage d'or du système inconnu. La planète diminuait peu à peu sur les écrans. Plus elle s'amenuisait et plus le soulagement envahissait un arbre. L'épave de l'abondant n'était heureusement plus visible. Sortir du système allait prendre plusieurs semaines, mais peu importait. Une fois franchi le nuage d'or, elle n'aurait plus qu'à lancer les propulseurs transdimensionnels et quelques heures plus tard, le temps de se présenter devant la commission d'enquête et de faire son rapport, elle foulerait à nouveau le sol du Cameroun, où elle retrouverait ses amis, ses parents et ses collègues. Elle était si fatiguée, les membres moulus, la tête brouillée. Elle serait bien heureuse de les revoir après tous ces mois passés à parcourir les territoires de la charte avec Anton. Anton, Kiris et Kiris, le privé, la navette et la capsule, qu'avait-elle fait ? Je me suis sauvée. Non, j'étais en danger, je me suis sauvée la vie. Sauvée, corps et bien, et l'âme. L'âme, mon Dieu, qu'avait-elle fait de son âme ? Qu'avait-elle fait de son statut d'agent de l'office, de ses devoirs envers la charte ? L'âme, le souffle de la charte, l'esprit de la lettre. L'esprit souffle, l'âme est intacte. Différente, mais intacte. Elle était toujours un arang, et elle était vivante. Si elle ne s'était pas appropriée cette navette, elle serait morte dans le naufrage, ou vivante et condamnée à végéter sur cette planète perdue. Ce monde où il n'y avait rien, pas de civilisation, pas d'amis, pas de travail, pas de carrière. Kiris et Kiris. En tant qu'agent de l'office, n'aurait-elle pas dû suivre Kiris et Kiris ? Pourquoi faire ? La criminelle était morte, qui pouvait survivre à l'autodestruction de l'abondant. Anna se sentait pourtant mal, physiquement mal, faible, en sueur. Le cœur battant trop vite, le souffle oppressé. Et comme aucun polytech n'avait daigné monter à son bord, elle se rendit sans aide à l'infirmerie de la navette. Pas à pas, la tête bourdonnante, la vue brouillée, les jambes en coton. Elle s'effondra plus qu'elle ne s'assit sur la couchette, et d'une main, elle avait abandonné l'autre au lieu du médecin, elle ouvrit sa combinaison pour examiner son anatomie, à la recherche de traces de nécrose provoquées par le méthanatos de Kiris et Kiris. Le module remarqua aussitôt son attitude. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter, votre état est normal. Mon quoi ? Le module profita de sa surprise pour bloquer son autre bras sous un brouillement de senseurs. Vous êtes en train de sombrer dans le grand sommeil, c'est la cause de vos symptômes, et cela n'a pas lieu de vous troubler. La navette est capable d'entrer dans l'envolement de dimension sans votre aide. Voilà qui est rassurant, Sylvie Denis. N'aie pas peur toute seule comme ça dans l'espace. Ah, ou nul ne vous entend crier comme chacun sait.
Non, pas du tout. L'express passe effectivement un moment critique puisque l'abondance est un vaisseau interstellaire qui fonctionne grâce à la conjonction des esprits de cinq personnes différentes. Et c'est le fait qu'il se soit écrasé sur une planète parce qu'une une dame vraiment pas sympathique, qui s'appelle effectivement Tiris de Tiris, avait besoin de certains éléments pour faire arriver à ses fins, qu'elle a provoqué le naufrage. Mais il y a plein de gens hein, dans l'espace. ça se passe dans un futur à 2-3 000 ans. Donc on s'est installé sur sur un certain nombre de planètes. Dans la plupart des cas, j'ai vérifié qu'on a déjà plus ou moins détecté des exoplanètes dans les systèmes que j'ai choisis. Donc, on peut penser qu'on y va, quoi, non, mais enfin, pas tout de suite. Oui, non, c'est pas si. C'est tellement grand, il n'y a pas de raison de ne pas aller mettre des gens dedans. Après tout.
Votre pays imaginaire, c'est l'espace, évidemment.
C'est l'espace. Oui, c'est l'espace. J'arrive pas à concevoir qu'on sache ce qu'il y a et qu'on n'y aille pas. C'est comme les restes et tout ce genre de choses. Alors, à partir du moment où l'homme a acquis une connaissance, il peut l'oublier momentanément, il peut se présenter des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, pour aller quelque part, mais j'ai du mal à me dire que. Et puis de toute façon, comme je sais pertinemment que d'un point de vue purement personnel, je n'irai pas. Tant qu'à faire, je préfère y aller par le biais de bouquins, que ce soit les miens ou ceux des autres, vu que bon, il n'y a pas de raison. De s'en priver.
Un autre pays, un autre univers, une autre façon de voir l'ailleurs. Avec Samantha Bailly, je le rappelle, tout le monde le sait maintenant, ça va finir par énerver le coup de cœur des Imaginales 2013. Elixir. Alors, Elixir, c'est une nouvelle qui a été écrite tout récemment, c'est sa dernière publication, à ma demande et à la demande des éditions AQSF, pour une anthologie qu'on vient de publier, qui s'appelle « Les coups de cœur des Imaginales » et que j'ai commise à la demande donc de Jérôme Vincent, directeur des éditions AQSF. Ceux qui verront la petite couverture reconnaîtront la plage des Vosges avec des tatous et des personnages un peu bizarres et légèrement revus. Mais on reconnaît fort bien la grande place d'Épinal. C'est pas Épinal que ce soit sa nouvelle, heureusement. Mon corps est pris d'une contraction incontrôlable qui remonte jusqu'à la gorge. Le stomac hiver se détourne, écœuré, puis me tend un tissu. Je m'en empare en évitant soigneusement tout contact avec ses doigts. Puis m'essuie la commissure des lèvres d'une main tremblante, je vomis à nouveau. Est-ce que ça va aller? Impossible de répondre, de formuler le moindre mot. Le dégoût me possède tout entière, s'agrippe à moi, refuse de partir. Tu crois que ça signifie qu'il peut récidiver, ainsi ce stomac? Je me relève avec difficulté, puis appuie sur le bouton métallique qui permet l'évacuation de l'eau. Après une profonde respiration, j'arrive à articuler « Son meurtre me répugne à un point. Il a donc conscience de la gravité de son acte ?»« Oui. As-tu ressenti les remords ?» Difficile à dire. Le dégoût est trop dominant. Le soma acquiesce d'un hochement de tête. Je m'approche du lavabo pour me passer de l'eau sur le visage, tandis qu'il fait les 100 pas, pensif. « C'est un cas complexe, reprend-il. Le fait qu'il soit hanté par son acte n'implique pas forcément des regrets. » Et ne garantit pas une non-récidive. Ça, c'est à toi d'en juger, pas à moi. J'affronte mon reflet dans le miroir, tandis que j'égoutte mes doigts. Mon teint est encore plus livide qu'à l'accoutumée, et mes cheveux noirs épousent mon visage, accentuant mes traits émaciés. J'ai maigri, tellement maigri. Dis-moi encore ce que tu as ressenti exactement, poursuit l'hiver. Une envie de gerber, ça ne se voit pas? Il fronce les sourcils. Ce n'est pas drôle, Elixir, fais un effort. C'est la stricte vérité. « Bon, très bien, tu n'as rien à ajouter? Dois-je te rappeler que la vie d'un homme est en jeu? Les existences remises en cause, c'est mon quotidien. Et le soma ne perd jamais une occasion de me le rappeler. Je déteste quand il me fixe avec cet air sévère, tout en frottant sa joue fraîchement rasée. C'est un tic chez lui. Il s'y livre toujours quand il doit prendre la décision finale. Seulement, je ne peux rien faire de plus que ce que mes capacités me permettent. Avoir accès aux sentiments des autres, et tenter de les expliquer. ou plutôt me laisser submerger. Répulsion, dis-je avec lassitude, il n'y a que ça. Le reste est trop flou. Voilà, on est rentré dans un monde où, pour vérifier si les citoyens, c'est un monde un peu à la Orwell, un peu à la 1984, un monde un peu le meilleur des mondes, en tout cas pour ceux qui dirigent cette société, un monde protégé où, évidemment, les personnages sont confrontés, lorsqu'un de leurs actes pose problème à la société, à un test, et c'est évidemment, si vous avez bien compris pourquoi il se protégeait, c'est une empathie. Votre personnage principal, Samantha Bailly. Et très vite, pour ceux qui pourront ensuite lire ces romans, c'est des romans très différents, ce sont des nouvelles différentes, des catégories d'imaginaire différents, et pourtant, à chaque fois, vous avez déjà un univers et des obsessions, et en particulier le problème du lien et le problème de l'empathie ou de l'incapacité à ressentir les choses. Où on ressent, et donc on a un rôle dans cette société, on ne ressent pas. Pourquoi ce thème vous touche, Samantha, particulièrement ?
Disons que dans ce cas-là, ce que je trouve très intéressant avec les mondes imaginaires, cette allure-là, évidemment, comme on l'a dit, elle est toujours proche de la réalité, c'est juste des filtres ou une façon exacerbée de le montrer. L'empathie, on la vit tous plus ou moins, c'est-à-dire qu'on, voilà, scientifiquement, on a des neurones miroirs, on peut prendre la même posture que quelqu'un en face de nous, on peut, sans s'en rendre compte, inconsciemment, être influencé par l'altérité. Et j'avais envie de construire une société en fait imaginaire dans laquelle cette empathie a déjà été scientifiquement prouvée et des personnes qui ont développé un don qui passe par le toucher. Je trouvais ça intéressant d'avoir cet aspect charnel en fait qui est lié à l'empathie, c'est-à-dire que le contact physique devient une vraie contamination et que finalement l'identité se perd dans les autres. Et c'est le cas d'Elixir, qui est une empathe qui est devenue un outil gouvernemental et son rôle toute la journée c'est de toucher des gens. En plus, qui n'ont pas des intériorités très saines, puisqu'ils sont pour la plupart fous, des criminels, donc il faut tester leur ressenti, sachant que ce n'est pas des pensées, c'est vraiment un ressenti, donc il y a une vraie subjectivité dans son interprétation, pour choisir ou non d'évacuer en fait, les personnes de la société. Et l'évacuation, ça passe à une condamnation à mort. Donc voilà. Et cette thématique, globalement, de l'émotion, en fait, tout simplement, du lien. Je crois que c'est celle à laquelle on est confronté tous les jours, c'est qu'on est nous, mais on est aussi les autres, et on doit composer avec les autres dans la société. On peut parfois s'isoler, mais on y revient à chaque fois. Et je trouvais ça assez intéressant d'exploiter ça, en tout cas sous cet angle-là, de lier finalement le sentiment et l'altérité comme une espèce de confusion, comme une espèce de mélange qui devient finalement une torture psychologique pour le personnage.
Vous, Yagal, vous avez... imaginez un pays imaginaire, c'est le cas de le dire, le Montbézier, on va y revenir. Vous avez décidé de nous envoyer voyager ailleurs, au Montbézier, mais aussi dans d'autres univers que ceux de la majorité de nos concitoyens. Et puis, quelque part, vous avez décidé de ne pas faire avec, parce que Samantha Bailly disait qu'on vivait avec les autres, qu'il fallait bien composer avec eux. Et vous, Yardal, vous avez longtemps composé, même peu, mais quand même, comme nous tous. Et puis finalement, cette fois-ci, vous en avez eu marre et vous avez décidé de ne pas composer. Vos personnages ont décidé d'en finir quelque part avec certains préjugés. Wow, conseil Geoff en entrant, juste avant de baisser le regard sur les personnes assemblées et de retenir une exclamation beaucoup plus imagée. À vue de nez, s'étale sous ses yeux l'équivalent du budget annuel d'une nation en voie de développement. Plus de quoi alimenter en potin plusieurs numéros d'un magazine People. Il y a probablement aussi matière à interpeller la SEC et la NSA. La SEC, ne serait-ce que parce que les deux leaders mondiaux sur le marché du logiciel sont gentiment en train de tailler une bavette autour de leurs ordinateurs portables ouverts. La NSA, entre autres parce que le magnat russe qui discute avec un prix Nobel de physique et l'égérie du féminisme à poil dur est interdit de séjour dans plusieurs États européens et soupçonné de trafic d'armes. À la louche, Geoff reconnaît aussi un potentat des médias, un styliste de haute couture, une poignée d'acteurs, quelques milliardaires multitâches, un chef d'orchestre et une demi-douzaine d'habitués des charts du monde entier, dont le chanteur Diane, qui la tient par la taille. La Jet Set 20, en quelque sorte, sauf qu'ils sont près d'une centaine. Vous amuserez à retrouver les gens auxquels il est fait allusion. Quand Kofan frappe dans ses mains, les conversations se taisent. Ceux qui n'avaient pas encore remarqué leur entrée se tournent vers eux, dont un octogénaire bien dégarni, avec une tache sur le front, le dernier secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Merde, laisse échapper Geoff. Là, vous m'impressionnez. pendant que la salle est en train de se réorganiser, chacun rejoignant une place selon une configuration qui n'est pas sans rappeler celle d'une conférence militaire, Coffin sourit. Vous comprendrez maintenant pourquoi cette rencontre a été difficile à mettre au point sans qu'aucun média ni service secret en ait vent. Venez. Face à ce qui est indéniablement devenu une assistance, se trouve une chaire, légèrement rehaussée, dotée d'un micro sur la tablette. C'est là que Coffin dit Geoff, et à la plus vive surprise de celui-ci, il y abandonne pour rejoindre le premier rang, s'asseyant entre le fossoyeur du Soviet suprême, le nom de Dieu, l'archevêque le plus controversé de toute l'Église romaine. Désorienté, Geoff charge Baronski et s'aperçoit qu'il se tient derrière lui, un peu comme un garde du corps, debout, jambes légèrement écartées, mains croisées sur le pubis. Il prend aussi conscience d'être en tenue de jogging et d'avoir encore la serviette gracieuse autour du cou, devant une armada de sommités siégeant avec micro et tablette, pour un symposium dont le sens lui échappe complètement et dont il est l'infortuné point de mire. Coffin appuie sur le bouton de son accoudoir droit et se penche vers le micro. « Général Tyler, commence-t-il » Sa voix est restituée par des haut-parleurs placés tous les 5 mètres à l'angle du plafond et des murs. « Je ne vous présenterai pas. Tout le monde ici connaît votre dossier militaire et les notes un peu plus confidentielles que le colonel Baronski a eu l'obligeance de nous soumettre. Je ne nous présenterai pas non plus. Vous avez, j'en suis sûr, reconnu la plupart des membres de notre très hétéroclite communauté. Connaissant votre sagacité, je ne doute d'ailleurs pas que vous ayez fait le rapport entre cette diversité et ce que nous espérons de vous. » La sagacité de Geoff doit être restée à Arlington, car elle ne lui souffre que de calamiteuses réparties. Il appuie sur le bouton de la tablette. « Vous manquez un dalmatien pour faire une 101e ?» Voilà, ça démarre très fort. À Yerdal, je pense qu'il y a un petit extrait comme ça, ça nous met en forme. Hein, lorsqu'on commence à piquer du nez au bout de 4 jours d'imaginal, ça nous revigore. Et donc, ces gens sont réunis. On va simplement en rester là pour le moment. Mais ces gens, c'est qui à peu près? Quels sont ces personnages? On ne va pas tout de suite révéler. On lira notre extrait tout à l'heure pour faire comprendre au public. Qu'est-ce que vous nous préparez?
Ah oui, alors sans révéler, ça ne va pas être facile quand même. Ben, donc, grosso modo, il y a David Bowie, il y a... Enfin bref, il y a tous ceux auxquels vous avez osé rêver. Et moi, je l'ai fait. Il y a Angelina Jolie, il y a Brad Pitt, il y a... Ben, il y a quelques personnes qui ont été reconnues. Gorbatchev, je pense, éventuellement, et puis Monseigneur Tout. Oui.
J'ai quand même ton bisexuel, un petit peu gay, je commence à voir se dessiner quelque chose.
Oui, ce sont tous des gens qui sont engagés depuis des années dans un espèce de... c'est des gens qui croient que nous sommes tous égaux. Bon, ouf, quoi. Vous imaginez ça, hein, ben, pendant que nous, on est en jupe et tout, il y a des mecs qui sont en train de manifester à Paris, là.
Pour bien dire que nous sommes tous exclus.
Ouais, un pape. Vous êtes
amateur de science-fiction, ça c'est plus catégorique.
Alors, nous, on n'existe pas. Nous, on c'est un papa, 12 mamans et 24 octopodes qui nous permettent éventuellement de temps en temps de nous reproduire, mais ça, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on est là, plutôt que d'aller à la contre-manifestation qui va être verbalisée par les gendarmes. Non, les gendarmes ne sont pas là. Les CRS. Je...
Reprenons notre assemblée. Alors, ces gens-là, donc, on commence à voir ce qui les rassemble, à peu près tous.
Bah, ce qui les rassemble, c'est la conviction que bah, ils ont beaucoup de pognon et qu'ils ont autre chose qu'à faire qu'à le dépenser pour eux-mêmes. Et ils font ça, un petit peu partout. Il y a dans le tas, il y a en l'occurrence qui est caché derrière un pseudo, mais qui depuis des années se bat. Contre les. Qui se bat pour aider les enfants de sport-compte un petit peu partout dans le monde. Il y a Brad Pitt qui se bat pour. Ça fait 20 ans maintenant. Qui se bat pour que les sexuels soient considérés comme des gens
comme
normaux.
Des êtres humains.
Des gens normaux. C'est même pas des êtres humains. Parce que si on est obligé d'aller jusque-là, il y a un truc qui est extrêmement embarrassant chez Brad. Il n'a encore pas tout à fait compris que noir et blanc, c'est pas pareil. Voilà. Et ils sont tous là parce qu'ils s'investissent depuis très longtemps et tout à coup, ils ont envie de mener une action commune.
Alors, allons-y. Deuxième passage et on va rentrer dans le vif du sujet. Geoff sursaute. Combien, demande-t-il en oubliant d'enclencher le micro? David, comme d'ailleurs toute la salle, a très bien entendu la question 1 milliard. Pour commencer, en tout cas. Nous n'avons pas encore cherché à lever de fonds. Ce sera à vous de nous dire de combien vous aurez besoin, tenant compte du fait que notre ami Dimitri met déjà beaucoup de matériel à notre disposition. Des véhicules surtout, précise le Russe. Peu, mais de bonne qualité. Et avec l'effet de surprise assez performant pour prendre le contrôle des bases où sont parqués les appareils Mambesli. J'en fais du mal à ne pas prendre au jeu. Alors il raille. Et qui met les soldats que vous ne payez pas à disposition, Blackwater? Ce sont tous des volontaires, répond Goffan. Nous n'aurons effectivement que l'intendance à prendre en charge. Peu, mais de bonne qualité, eux, si c'est ça. C'est le dernier des soviets qui répond. Je ne dirais pas ça. Nous nous sommes limités à 10 000. Limités? Vous voulez dire que vous avez décoté plus de 10 000 volontaires pour envahir bénévolement le trou du cul de l'Afrique? Beaucoup plus. La sélection a été drastique. Nom de Dieu, nom de Dieu. J'offre une main à l'adresse de l'archevêque. Excusez-moi, monseigneur. D'accord. Vous jouissez tous d'une notoriété de relations qui facilitent les choses. Mais 10 000, plus de 10 000, je suis désolé de vous le dire, vous êtes forcément fait noyauter par quelqu'un qui n'a pas du tout le même objectif que vous, qui ne lâchera jamais les rênes. Vous les avez trouvés où, vos volontaires? À la qualité du silence, Joff sait qu'il vient de poser la question qu'on attend de lui depuis, eh bien, depuis pratiquement le premier échange, lorsque le David Dayan a mentionné cette fameuse armée de bénévoles. Il est certain que Kofan va répondre en personne. Ce sont presque tous des LGBT, lâche Kofan. LGBT. Maintenant, Joff sait ce que ça signifie. Lesbienne, gay, bi, trans, même si je dirais plutôt goui, pédé, avoilé à vapeur et eux trans, parce qu'il manque un petit peu de vocabulaire sur le sujet. C'est pas qu'il soit homophobe ou intolérant, c'est juste qu'il aime bien faire un chat à chat et que. Non, merde, vous êtes sérieux? Une nouvelle fois, toutes les paires d'yeux sont braquées sur lui. Certaines sont sous tension, d'autres dures. La réponse survient dans son dos. Oui, Geoff, c'est très sérieux. 38 des 53 États africains pénalisent l'homosexualité et pratiquent une discrimination violente à l'égard des LGBT. En sus de l'ostracisme ordinaire, le viol, la torture, la lapidation, la condamnation à mort sont choses fréquentes. Alors, même si ce n'est qu'un symbole, le gouvernement de cette armée de tafiole va renverser le pire de tous et ça va faire un sacré barouf. Il avait vraiment osé un sujet original à dire pas. Et plus étonnant, c'est que, au début, je me suis dit, non, il va quand même pas lui faire croire un truc pareil. Et à la fin, quand j'ai refermé le lit, je me suis dit, il exagère, mais finalement, c'est jouable. Alors, Yarda, pourquoi vous avez écrit ce livre? Pourquoi ce sujet? D'après ce que je sais, malgré la jupe très élégante que vous avez choisi d'arborer aujourd'hui, vous êtes quand même foncièrement hétérosexuel. Ce n'est pas une révélation, je ne suis pas d'outil sauvage.
Non, non, Sarah est très au courant de mon hétérosexualité. Je suis hétérosexuel, c'est parce que. J'ai pas eu le choix, quoi. Non, très, sans vrai, il se trouve que ma sexualité, elle s'exprimait là-dedans. Voilà. De la même façon que pour d'autres personnes, elle s'exprime autrement. Et j'ai la chance depuis quelques années de vivre dans une ville qui est un petit peu bizarre, qui s'appelle Bruxelles, où, grosso modo, quand les Belges ont envie d'expliquer le mariage pour tous aux Français, ils disent, voilà, c'est un homme qui épouse un homme, c'est une femme qui épouse une femme, et tout le monde s'en fout. Ben voilà. Et comme j'étais un tout petit peu en colère le 12 novembre 2010, quand la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, attendez, vous avez bien entendu le mot des droits de l'homme, hein, okay, exclut les LGBT des crimes de persécution. Hein, on n'a pas le droit d'abattre des Noirs, on n'a pas le droit d'abattre des Blancs, on n'a pas le droit d'abattre des Juifs, mais les LGBT, on pouvait. Hein, là, je me suis fait un gros coup de colère et j'ai dit, ben, vous voulez jouer? Allez, moi aussi, je peux le faire. Je peux rigoler un petit peu parce que ce n'est pas le sujet du roman. Honnêtement, là, on parle de quelque chose qui est non pas anecdotique. Bien sûr, c'est une présence qui est très très forte. Le sujet du roman, c'est le droit ou le devoir d'ingérence sur la façon dont on regarde. Cette capacité qu'on a merveilleuse cette capacité merveilleuse qu'on a d'aller sauver Total en Birmanie par exemple, ou d'aller sauver, tiens, récemment les Français sont les ils ont sauvé le Mali, non pardon, l'uranium, voilà, ça c'est plus le sujet du roman, mais je voulais aller jusqu'au bout de tous ces mensonges. Ah oui, j'ai oublié de vous donner un détail. En fait, le 12 novembre 2010, quand cette résolution est passée, Elle a été présentée par deux États, le Soudan et le Mali. Elle a été soutenue par quasiment tous les États africains. Et tous les États européens ont voté blanc. Les petits Français, les petits Belges, les petits Hollandais, les petits Allemands ont préféré ne pas s'exprimer là-dessus. Parce que finalement, bah, quoi, LGBT, c'est quoi? C'est presque des gens, mais pas tout à fait pareil.
Finalement, Yardal, votre pays, est-ce que c'est pas tout simplement indignation puisque vous êtes écrivain?
J'écris parce que je ne sais pas parler. Enfin, je pense que maintenant vous me connaissez depuis très longtemps. Ben, sinon, je suis un infâme homme politique ou une infâme femme politique. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que mon métier d'écrivain consiste à retransmettre le monde et à donner des pistes de réflexion.
Est-ce qu'un auteur de science-fiction comme Sylvie Denis, qui nous entraîne dans l'espace, qui traite des sujets très différents, dirait la même chose?
Ben ouais, en fait. Tout à fait. Parce que dans La saison des singes et l'Empire du sommeil, il y a un des aspects, c'est que les gens qui étaient transportés par le vaisseau qu'on va s'écraser au début, oublient une grande partie de leur passé. Bon, ça s'explique beaucoup plus tard. Mais ce qu'on crée, c'est une société telle qu'on a pu en connaître il y a un siècle ou deux, donc avec une oligarchie religieuse un peu obscurantiste, et lorsque, au début de la saison des singes, certains des personnages commencent à se poser des questions sur la façon dont fonctionne en fait la planète sur laquelle ils vivent, ils se heurtent à des gens qui ne veulent pas en entendre parler, ce qui est quand même quelque chose qu'on a un peu connu, un peu des gens qui ont brûlé vif parce que ils disaient des trucs sur la Terre, le Soleil, vraiment. Donc c'est tout à fait le genre de thématique que je peux comprendre sans grand problème.
Ce qui est extrêmement drôle, c'est que tu as parlé au passé, en fait rien n'a changé.
C'est un fait, oui.
Merci.
Pourvu que le futur n'y ressemble pas.
Ah, justement, c'est la question que peut se poser, puisque dans le texte de Samantha Bailly, on est quand même dans une sorte de futur, on imagine en tout cas. En tout cas, c'est pas précisé, on ne sait pas ce qui s'est passé, le futur, à notre lieu, à notre temps, c'est dit à aucun moment.
Oui, c'est assez intemporel, ça peut être à la fois une anticipation, puisque c'est vrai que dans cette société, on a deux castes de médecins, les somas et les animales. Les somas, c'est ceux qui sont capables de guérir le corps, qui sont capables de guérir un cœur, de prolonger une durée de vie, et puis les animales, c'est ceux qui s'occupent de l'esprit. Parce que dans cette société qui pourrait être un futur, on a découvert en fait une façon de soigner certains organes, mais pas le cerveau. Et du coup, en fait, les gens ne meurent pas, mais en tout cas, leur esprit décline. Et c'est ça, en fait, qui en fait la particularité, qui nous renvoie aussi à des choses actuelles, puisque c'est aussi des problématiques face auxquelles on est. Les personnes âgées, globalement, en ce moment, en termes de statistiques, sont plutôt touchées par des maladies qui touchent le cerveau et qui touchent à la perte de l'identité.
L'identité, c'est un thème important chez vous. Jacques Martel, vous êtes peut-être le Wilhelm Tichenor de la couvée, ou peut-être celui qui défend finalement une norme rassurante, parce qu'il y a de l'action chez vous.
Il y a de l'action.
Il y a des hommes, et des vrais, enfin ça nous change quand même de cette assemblée, quand même, deux filles, un garçon, enfin comme on établit ce garçon, des comportements scandaleux de la part d'un hétérosexuel qui défend quand même des individus en marche, vous au moins, dans votre roman. Il y a de l'action, des hommes, des vrais. Rassurez-nous, Jacques Martel.
Et des femmes et des vrais, puisque un des trois personnages principaux est une femme. Et il me semble bien que sa confidente et son amante est une femme également. C'est effrayant.
On n'est plus en sécurité nulle part, même dans la fantaisie.
Mais le pire, est-ce qu'il y a effectivement de pire, mais j'y pense maintenant uniquement à cause des paroles d'Ayardel, c'est qu'elle ne se pose même pas la question de savoir si c'est bien ou pas. Et personne ne se pose.
Vous voulez dire que l'absence de culpabilité aggrave encore la situation que vous décrivez dans votre roman ?
Oui, et sachant qu'en plus, moi j'ai un parti pris. Alors, qui n'est pas dit directement dans La guerre de l'Hydre, mais qui est mentionné à la fin dans Sacrifice du guerrier, c'est que ces récits sont les récits d'un des personnages qui accompagne les héros. Et il le dit lui-même, il y a peut-être eu dans ces histoires qu'il raconte des petits, des mesquins, des bornés, mais ils ne sont pas mentionnés. Parce que tout cela, ils ne doivent pas rester. Alors c'est un avis peut-être un peu radical, mais c'est l'avis du narrateur. Qui estime que les petits, les mesquins, ceux qui rusent, sans intérêt, sans conviction, sans but à défendre, ils n'en parlent même pas. Ils ont peut-être agi, mais personne ne le saura jamais. Et effectivement, même ceux qui peuvent paraître méchants, entre guillemets, dans la guerre de l'Hydre, défendent quelque chose. Ils n'agissent pas gratuitement, ni uniquement pour eux-mêmes. Ils défendent quelque chose que les autres n'apprécient pas, mais ils défendent quelque chose.
Comme Dieu, selon l'Ancien Testament, vous vomissez les tièdes, non ?
C'est pas moi, c'est le Hardy Visiteur qui raconte. Moi, je suis suisse strictement pour voir bien.
C'est le barde qui raconte l'histoire.
C'est le barde qui raconte l'histoire.
Voilà, rassure. C'est important avec ces auteurs qui nous entraînent un peu n'importe où d'être en sécurité. Et c'est vrai qu'avec Ayardal, est-ce qu'on est souvent en sécurité, Ayardal ?
Non, non, si un jour vous vous sentez en sécurité dans un de mes bouquins, je vous arrête d'écrire. Non. Soyons franches, je vous engage un petit peu à les Rainbow Warriors parce que malgré le quatrième de couverture, malgré la façon dont il est présenté dans la presse, il ne parle absolument pas de...
Pas de sol-scène sexuelle, on l'a vérifié d'ailleurs, on a lu des textes qui ont un peu d'allusion là-dedans, mais il n'y a aucune sol-scène sexuelle dans le bouquin.
Non, il n'y en a aucune.
J'ai cherché, mais
non, non.
Alors, c'est... il n'a rien à faire dans une bibliothèque.
Ouais, une jolie joke, celle-là. Non, ce n'est pas qu'un choix arbitraire, c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi. À partir du moment où 85% de mes personnages sont des LGBT, est-ce que j'allais mettre en scène la sexualité de chacun ? Parce que je vous jure, c'est pas facile.
C'est pas du vécu.
Ah, là, tu t'avances un tout petit peu quand même. Avant d'être H, j'étais peut-être B, tu vois, si ça se trouve. Mais non, je voulais que le livre soit lu par tout le monde et qu'il soit compréhensible par tous, et surtout au-delà du vecteur pédagogique, parce que quand on écrit un bouquin, éventuellement on essaye, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, on essaye de faire comprendre un certain nombre de choses à un lecteur qu'on ne connaît absolument ni d'Ève ni d'Adam, sur un monde qui lui échappe complètement. Donc oui, j'essaie d'être le plus sobre possible, bien que je dois avouer que de temps en temps, j'aurais eu envie de mettre une belle scène de cul.
Ce sera pour une autre fois, il y a un bal.
Oui, c'est le prochain.
Les voyageurs de l'ailleurs, c'est vous. C'est vous quatre. C'est Guy Denis. C'est pourquoi vous avez fait le choix de nous emmener comme ça dans les planètes, la Terre, ça ne nous dit rien.
Ce qui m'intéresse, c'est de... Il y a une phrase de Williamson dans... je ne sais plus quelle, enfin, pas le dernier, l'avant-dernier, quelque chose comme ça. Où en fait, il parle de l'SF, mais de manière... Et il dit que c'était pas tant de d'écrire le futur que de pointer dans une direction. Donc ce qui m'intéresse, c'est de montrer une direction possible. Comme après tout, d'autant plus que maintenant, un certain nombre des gens qui prétendent nous gouverner, la direction et la distance de temps dans laquelle ils pointent étant d'une courteté de vue absolument hallucinante, je trouve qu'il est d'autant plus important d'essayer de voir un petit peu plus loin et un petit peu plus à long terme. Parfois, oui. Mais j'ai déjà les lunettes, je te fais remarquer, hein, donc.
Jacques Martel, c'est parce que, ici et maintenant, notre Terre ne vous plaît pas, vous nous emmenez dans des mondes imaginaires et dans une sorte de passé métaphorique.
Mais sachant que moi, malheureusement, pas forcément, mais je travaille dans le milieu de l'industrie lourde, donc tout ce qui peut être pétrochimie, nucléaire, installation d'usines, etc. Donc, ça ne fait pas tellement rêver. J'ai toujours aimé ce qui était légendaire, héroïque, etc. Des années d'arts martiaux et trucs comme ça m'ont bien convaincu d'une chose, c'est que j'étais pas un guerrier. Donc il me reste que l'écriture.
Bien, je ne sais pas si Ayerdal est un guerrier, mais indéniablement de la littérature. En tout cas, vous avez fait le choix dans ce scolaire de présenter des guerriers motivés exclusivement par l'engagement personnel. Mais évidemment, je rassure ceux qui craindraient du prêche-prêche, d'abord on ne lâche pas le thriller. Franchement, j'avais des réticences et une fois que j'étais lancé, j'ai marché jusqu'au bout. Et puis d'autre part, quand on lit ce thriller, ensuite les personnages, peu importe leur particularité éventuelle, en tout cas par rapport aux autres éventuels, et peu importe aussi, finalement, que la situation de départ ne soit pas crédible, finalement, au fur et à mesure du roman, elle le devient. C'est finalement peut-être ça la plus belle performance d'un thriller sur un sujet aussi apparemment farfelu.
J'ai fait quelque chose qui ne se fait absolument pas. C'est-à-dire que, en principe, quand on écrit un roman, on passe un contrat avec le lecteur. On lui dit dans les premières pages, à peu près, voilà où on va aller, voilà ce qu'on va faire. Et ben, du coup, le bouquin aurait dû se terminer à la moitié. Et c'est là que je dis au lecteur, non, maintenant on commence l'histoire. On va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir ce qu'il y a derrière les rideaux et on va ouvrir. C'est très très facile pour moi parce que c'est pas tout à fait mon premier roman. Mais ce qui était difficile de mettre en place, c'est le retournement sans vexer, blesser personne. Il fallait que ça soit logique, que tout s'enchaîne, que tout. On a cru à quelque chose au départ, il y a un élan humanitaire qui est exceptionnel, et puis on s'aperçoit. Hein, je vais spoiler le livre. Oh merde.
T'as l'habitude. Hein.
Je vais spoiler un bouquin il n'y a pas très longtemps, et ça c'est très très mal. Donc on va voir que toute la réflexion qu'on aurait pu conduire au départ, elle va ailleurs.
Dans tous les milieux, il y a des gens pas très bien, évidemment. Pas de simplisme chez
N'importe qui. Enfin, le monde nous a du simplisme, il me semble. Enfin, je veux dire des noms au hasard, quoi. Non, je ne veux pas dire de noms. Il y a un maire de Paris, il y a un maire de Marseille, il y a un maire de Lyon et qui n'est pas l'orientation officielle sexuelle française.
Ça y est, un outil public.
Et ça ne les empêche pas d'être des politiciens, quoi. Et puis voilà. Mais moi, c'est pas parce que je suis hétérosexuel que je suis dans le violent.
On va terminer par Samantha Bagui, tout simplement parce que c'est
la plus belle.
Dans le macho, il aime les LGBT, c'est quand même qu'un con macho. Ayerdal, Samantha Bagui, le coup de cœur 2013 des Imaginales. Vous retrouverez Horizon, hein, ce roman de fantasy épique qui a gagné donc le prix Imagina des lycées en 2011. Vous pourrez trouver ce qui nous lit aussi chez vos meilleurs libraires, puisque sur nos tables, malheureusement, il n'y en a plus, tout est vendu. Et vous pouvez toujours la lire dans les coups de cœur des Imaginales. Au moins, vous aurez de ces nouvelles en attendant pour patienter de Samantha Bagui et ses histoires d'empathie. Ce que je voulais vous demander pour conclure, votre ailleurs à vous, vos mondes imaginaires, c'est parce que le monde tel qu'il est ne vous plaît pas, ou c'est parce que finalement réenchanter le monde, c'est tous nous aider à vivre, Samantha Bagui?
Alors je ne traite pas de sujet très enchanté, donc je ne peux pas vraiment dire ça exactement, mais ce qui est sûr, c'est que en fait ces ailleurs-là, je crois qu'on l'a dit, c'est la métaphore, je crois que c'est la plus belle façon de le dire, c'est-à-dire qu'on transpose, on y met une forme de poésie, ça c'est sûr, je pense, dans la fantaisie. Pour moi, c'est ça, c'est que ça permet finalement d'être dans le symbole. Et c'est quelque chose qui est assez important. mais j'écris aussi des choses qui sont réalistes. Donc je ne veux pas dire que ce soit un parti pris, mais je pense que finalement, l'ailleurs, c'est l'autre, et c'est ça. Et je pense qu'on vit dans des sociétés qui me paraissent en tout cas très étanches, et on est censé être dans des cases finalement. On est censé être des jeunes qui ne voyons pas des plus vieux. Voilà, on est censé être des auteurs, alors on n'est pas censé être en proie avec le monde. Enfin, c'est ce que j'ai beaucoup entendu quand on me pose des questions. Ah, vous êtes auteur, etc. Comme si finalement on était dans une espèce de bulle. Et je crois que c'est valable à tous les niveaux. Et ce qu'on a envie de dire, je pense, c'est qu'un livre, quoi qu'il en soit, je crois que c'est vraiment un pas vers l'autre, que c'est une façon de se pencher et de faire une proposition, d'apporter une réflexion. Et ces ailleurs-là, c'est tout simplement, je crois, une forme de communication.
Ben voilà, c'est une belle fin pour ce café littéraire. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté nos auteurs. Il reste encore un dernier café littéraire, un dernier pour la route, que je vous invite à retrouver tout à l'heure avec nos invités, et puis sur le magique miroir numéro 1, et puis surtout, précipitez-vous, la bulle du livre est encore ouverte. Il y avait encore des livres à vous procurer. Merci à tous.
Merci, Stéphanie.